Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 novembre et vous écoutez toujours et encore l'émission Drôle de Dame sur Fréquence 7, la radio décalée, pas pareille et différente. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Dans deux jours, ce jeudi 7 novembre, ce sera la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un phénomène qui peut toucher tous les élèves, quel que soit leur milieu. Nous avons donc décidé d'engager notre discussion sur ce phénomène dit de harcèlement. Comment peut-on le définir? À quoi peut-on le reconnaître? Quels sont les mécanismes du harcèlement? Quelles sont ses conséquences, qui peuvent être dramatiques d'ailleurs, hein, selon les situations? Enfin et surtout, peut-on prévenir ce phénomène de harcèlement? Alors nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer Marie-Claude, qui travaille avec des jeunes, victimes de différents traumas, et dont des traumas liés à toutes sortes de violences, dont le harcèlement.
Marie-Claude, un grand merci à toi d'avoir accepté d'être interviewée. Alors, comme je le disais il y a un instant, tu accompagnes des jeunes en situation de souffrance pouvant être liés au harcèlement. On traite souvent le problème de manière linéaire, c'est-à-dire on traite la situation en tant que telle. Or, ton approche est systémique. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste et du coup, comment tu appréhendes ce phénomène de harcèlement ?
Merci beaucoup Florence, merci déjà pour ton invitation à présenter la systémie et notamment par rapport à la situation de violence subie dans les écoles. C'est vrai que c'est une approche un peu différente. Donc moi je vais déjà peut-être commencer par me présenter un petit peu. Je suis assistante sociale dans un service de pédopsychiatrie. Donc je travaille également en tant que thérapeute systémicienne dans ce service de pédopsychiatrie. Donc, c'est-à-dire que j'interviens au niveau des familles pour réfléchir un peu avec eux à leurs interactions, les difficultés de communication qu'elles peuvent avoir, ce qui permet en fait de réguler, de provoquer des changements dans leur façon de communiquer et de travailler ensemble. Et ensuite, ça améliore la communication et du coup, ça améliore le bien-être du patient que nous, on appelle un patient désigné, celui qui est le plus en souffrance dans la situation familiale. Donc cette situation, en fait, qu'on retrouve dans des situations familiales, on peut aussi les trouver dans d'autres sphères de la vie des enfants, en fait. Et c'est là où, effectivement, on peut parler de la situation scolaire et notamment des difficultés qu'on peut rencontrer dans les écoles. En ce qui concerne notre interview d'aujourd'hui, en ce qui concerne, effectivement, le harcèlement, en fait. Donc, pour parler du harcèlement, je vais quand même un petit peu peut-être définir ce qu'on entend par harcèlement scolaire. En tout cas, la définition qui me convient le plus, c'est effectivement bien préciser que quand on parle de harcèlement, on parle du fait qu'un élève ou un groupe d'élèves, hein, parce que c'est pas forcément qu'une seule personne, fait subir des violences, alors des violences qui peuvent aller simplement de l'intimidation, bien évidemment ça peut être très grave, mais en tout état de cause il y a des gradations dans les violences, hein. Ça peut aller de l'intimidation jusqu'aux violences physiques. Il y a aussi, et aujourd'hui on est beaucoup confronté à ça, les difficultés du cyberharcèlement, hein, la propagation de rumeurs, que ce soit des rumeurs qu'on va propager au niveau de l'école, mais on peut aussi le faire sur Internet, et là ça cause d'autres difficultés encore. Il y a aussi le fait de raconter des mensonges ou des fake news, comme on dit, sur l'enfant, et notamment aussi par Internet, en lui prenant son identité aussi. C'est des fois des choses qu'on peut retrouver. Et dans le harcèlement, ce qu'on retrouve souvent, c'est le rejet de l'autre, le rejet de la sphère scolaire ou en tout cas du groupe d'amis dans lequel l'enfant appartenait jusqu'au moment du harcèlement. Et il y a ce rejet qui est vécu par l'enfant comme une situation très violente. Pour qu'on parle du harcèlement, hein, il faut bien que ce soit clair, c'est quelque chose qui est répété régulièrement, c'est pas une seule fois en fait. C'est appuyer sur quelque chose pour qu'en fait ça devienne le quotidien de l'enfant. C'est une façon d'interagir avec cet enfant-là, en fait. Donc nous, en systémie, en fait, moi, dans mon travail, alors effectivement, hein, on connaît le programme phare. Donc je rappelle d'ailleurs, c'est un numéro vert qui est le 3018 et qui permet en fait aux enfants qui vivraient une difficulté ou éventuellement aux témoins de cette difficulté de prévenir sur ce numéro vert pour qu'effectivement l'école, les parents de cet enfant soient prévenus de la situation. Moi, mon travail dans mon service en fait de pédopsychiatrie, c'est effectivement un travail plus thérapeutique en fait. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue systémique, quelles conséquences a le harcèlement et comment il peut être provoqué en fait ce harcèlement. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'interaction, dans la relation, dans la communication entre les enfants pour qu'effectivement à un moment donné, il puisse y avoir un harcèlement. Donc c'est autant étudier les causes du harcèlement que les conséquences sur l'enfant. Donc, quand on parle de systémie, en fait, on parle des individus, en fait, qui font partie. Alors, chaque individu, hein, chacun d'entre nous, on fait partie de plein de systèmes. On fait partie d'un système familial. On a des parents, des frères et sœurs, éventuellement. On fait partie aussi d'autres systèmes de vie. Donc, la scolarité, comme on vient de le dire. Mais quand on est plus grand, ben, c'est aussi notre milieu professionnel. Et puis, c'est aussi nos amis du quartier. Et puis, c'est aussi le sport qu'on va pratiquer. La musique, dans chaque système, il y a des relations et des communications. Et souvent, chaque système communique à travers l'individu dans les autres systèmes, en fait. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un enfant qui serait harcelé dans son milieu scolaire, à un moment donné, ça va avoir des répercussions dans toute sa vie, en fait. Pas que dans le milieu scolaire. Donc, il y a des gradations là aussi. Il peut y avoir des situations où l'enfant, parce que le harcèlement est arrêté très vite, soit parce que l'enfant va arriver à dénoncer ce qui lui arrive, soit parce qu'il va y avoir des témoins qui vont dire stop à la situation en allant prévenir des adultes, etc. À ce moment-là, si la situation est prise très très vite, il se peut que l'enfant n'ait pas encore développé de difficultés dans les autres sphères de sa vie et ça peut se cantonner à l'école et ça peut se régler juste au niveau scolaire en fait. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en fait. Dans la majeure partie des cas, l'enfant, au départ, va se retrouver un petit peu tout seul face à ce harceleur, sans arriver non plus à nommer qu'il est victime d'agression en fait. Il va pas pouvoir le verbaliser comme ça. Il va se rendre simplement compte que quelque chose va pas et qu'en fait, il subit des difficultés de la part d'un autre enfant. Si il n'y a pas de témoin, ou si les témoins restent passifs, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas du tout, ils laissent faire, ou pire, ils participent, hein, puisque des fois on parle de groupe d'agresseurs, en fait, groupe de harceleurs. Si effectivement on se retrouve dans cette situation-là, l'enfant, la santé mentale de cet enfant va se dégrader. Ça peut être aussi la santé physique, bien sûr, hein, mais ça, c'est ce que moi je ressens, c'est effectivement cette violence qui peut effectivement avoir un impact sur l'ensemble de la vie de l'enfant. Donc, ce qu'on peut dire de cet impact-là, c'est qu'elle prend plein de formes. Et il y a autant de formes de difficultés qu'il y a d'enfants. Mais les cas les plus classiques, c'est qu'on va se retrouver avec un enfant qui va développer des colères quand il va rentrer chez lui, qui va devenir un peu plus violent avec ses frères et sœurs, ou qui va beaucoup pleurer. Après, je veux dire, quand ça s'aggrave, l'enfant va s'isoler, rester dans sa chambre, il va ne plus manger ou manger trop. Enfin voilà, il y a plein de signes comme ça qui nous laissent penser que l'enfant va pas bien. Mais il va pas bien s'il ne parle pas, on peut pas savoir s'il va pas bien parce que ça va pas dans sa famille et on peut pas non plus savoir s'il se passe quelque chose à l'école. Donc là, tout l'intérêt de venir consulter avec un enfant qui ne va pas bien, c'est pour essayer de comprendre d'où vient son mal-être en fait. Et souvent, des enfants qui sont harcelés ont une baisse de l'estime d'eux-mêmes. Donc, ça commence par effectivement de la culpabilisation. Mais comment ça se fait qu'on me fait ça? C'est que je ne dois pas être gentille, c'est que je le mérite, etc. Jusqu'à effectivement une perte complète de sa confiance et un repli important. À partir de là, si l'enfant commence à verbaliser, il faut bien évidemment prendre en considération ce qu'il vit en agissant réellement sur la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler en thérapie si on ne gère pas le problème. Et donc le problème, c'est croire l'enfant, c'est-à-dire valider ce qu'il dit, être vraiment dans sa souffrance avec lui, l'accompagner. Ça, c'est la première étape et c'est très important. C'est ensuite prévenir, bien évidemment, l'affaire, le système dans lequel les agressions se passent. Donc, si c'est l'école, c'est appeler l'école, parler avec, tout de suite faire déclencher, alors que ce soit le système phare ou un autre système, hein, tout dépend de ce que l'école adopte comme système, démarrer quelque chose pour que isoler la victime de son agresseur. C'est la première chose, en fait. Et puis, en règle générale, on parle aussi de sanctions, c'est-à-dire que pour qu'un enfant, on valide le fait qu'il ait été victime, c'est qu'il y ait une sanction vis-à-vis de l'agresseur, et qu'à un moment donné, cet agresseur soit puni par rapport à la situation. Alors, on ne va pas mettre tous les agresseurs en prison, bien évidemment, mais c'est quand même un travail de ce qui s'est passé, peut-être une exclusion de l'établissement, peut-être un changement de classe, enfin, voilà, vraiment des choses qui peuvent dire à l'enfant, ça y est, on t'a entendu, on t'a écouté, maintenant c'est terminé, et maintenant tu vas pouvoir, toi, et soigner ta santé mentale. Hein, j'insiste bien sur le fait que pour soigner des traumatismes liés à une agression, il faut que l'agression soit arrêtée. Alors, ce qui est un peu compliqué actuellement, c'est le cyberharcèlement. C'est qu'en fait, des situations qu'on pense régler, à certains moments, elles peuvent ressurgir parce que il y aurait des photos, il y aurait une moquerie sur Internet qui serait relancée quelques mois, quelques années plus tard. Mais donc cette difficulté-là, bien évidemment, elle rend encore plus compliqué le fonctionnement actuellement de notre société, puisque les réseaux sociaux sont très importants dans notre vie, en fait, et ont des conséquences sur nos systèmes de vie, en fait. À partir du moment où effectivement on a travaillé et qu'on a mis un point nommé le fait d'avoir séparé l'agresseur de la victime et qu'on a justifié le fait que cette agression doit s'arrêter et qu'elle s'arrête, à ce moment-là, un travail thérapeutique doit être fait. Et ce travail thérapeutique, c'est travailler avec l'enfant pour déjà en premier lieu, si c'est possible, travailler sur ses traumas. Donc, qu'est-ce qui reste de la situation ? Et ce qu'on peut travailler aussi, c'est la question de la confiance. Et la question de l'estime. Et ça se travaille aussi en reprenant goût à la vie. Alors, il y a des groupes de parole qui peuvent se mettre en place avec des enfants qui ont été victimes aussi. On parle aussi aujourd'hui de thérapie ou de médiation ou de justice réparatrice, c'est-à-dire de laisser confronter des enfants qui ont vécu du harcèlement avec des personnes qui auraient été des agresseurs, en fait. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'agresseur de la personne qui est présente, mais c'est pour essayer de faire en miroir un travail entre qu'est-ce que vit un agresseur et qu'est-ce que vit un agressé, en fait, dans une situation. C'est un petit peu se dire qu'est-ce qui fait, en fin de compte, que dans notre société, il y ait cette forme de violence, en fait.
Encore un grand merci à Marie-Claude pour cet éclairage sur l'approche systémique et son application possible dans les traitements de situations de harcèlement. Alors, à un moment donné, elle évoque deux points qui ont retenu mon attention. L'existence du dispositif phare, d'une part, hein, qui peut être mis dans les établissements scolaires, et le sentiment de culpabilisation jusqu'à la perte de l'estime de soi chez l'enfant ou l'adolescent agressé et victime du harcèlement. Alors, s'agissant du premier point, le dispositif phare, c'est un programme qui existe depuis plusieurs années déjà et qui doit être étendu d'ailleurs à tous les lycées depuis 2023. Ce dispositif repose sur la mobilisation des équipes éducatives et des élèves, tous évidemment volontaires. Alors, il y a un volet de prévention du harcèlement avec une équipe programme qui est donc chargée d'organiser des heures d'information, de sensibilisation au harcèlement, à quoi on le reconnaît, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses conséquences, etc. À noter que, d'ailleurs, dans le second degré, on va former des élèves ambassadeurs hein, qui auront pour rôle de sensibiliser aussi leurs pairs à ce phénomène de harcèlement. Et puis, il y aura un volet qui va porter directement sur le traitement des situations de harcèlement, avec cette fois-ci une équipe ressources Il y aura donc 5 personnes adultes qui, elles, seront formées et donc chargées de mettre en œuvre le protocole de prise en charge des situations de harcèlement. Alors la méthode souvent la plus utilisée, c'est la méthode dite de la préoccupation partagée. Alors, s'agissant du sentiment de culpabilisation et de la perte de l'estime de soi, il y a quelque chose de paradoxal dans ce phénomène, puisqu'on peut se poser la question de savoir comment un individu agressé, donc qui n'a rien fait, peut-il vivre ce sentiment de culpabilité et voir son estime de soi s'écrouler au fond des chaussettes. Alors, pour tenter de répondre à cette question, je me réfère aux travaux d'un psychologue communautaire qui s'appelle Éric Verdier, et qui explique comment se construit d'abord le phénomène de bouc émissaire qui, entre guillemets, précède au phénomène de harcèlement. Alors, très brièvement, lui, il caractérise le bouc émissaire comme celui qui est rejeté par les normes, c'est-à-dire que les autres le regardent comme ayant quelque chose de pas normal dans son attitude. Et il va expliquer que c'est la stigmatisation qui va passer par plusieurs étapes qui va construire ce phénomène de bouc émissaire. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'abord, on colle une étiquette sur le dos de la personne. Et cette étiquette, quand elle apparaît valorisante pour celui ou celle qui est concerné, c'est plus compliqué pour cette personne étiquetée donc de réagir. Par exemple, quand on traite quelqu'un d'intello, sur le moment, il ou elle peut croire que c'est quelque chose de positif, qu'on justement on va le juger comme quelque chose de bien. Alors c'est quelque chose qui est très fréquent en fait, ce phénomène-là, entre parenthèses. Alors, cet étiquetage ensuite va devenir le statut principal de la personne dans son entourage. Alors ça va devenir, par exemple, celui ou celle qui va se mettre à côté justement de la personne dite intello pendant un TP, pendant un DS, etc., etc. Puis quand cette étiquette est répétée, cette personne devient l'intello pour tout le monde, mais surtout tout le temps. Et à partir de là, tout se passe comme si on allait différencier cette personne et petit à petit l'exclure du groupe, et de fait, la personne devient différente des autres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres, et donc c'est ce qui va devenir de la discrimination. Donc en fait, on passe de l'étiquetage à la discrimination. Alors, encore une fois, jusque-là, la personne concernée, surtout quand l'étiquetage est d'apparence revalorisant, ne se rend pas forcément compte qu'elle est en train de devenir un bouc émissaire, et donc va devenir quelqu'un en souffrance. Mais petit à petit, elle va commencer à appréhender qu'elle n'est pas comme les autres, qu'on ne la traite pas comme les autres, qu'elle a été manipulée. Mais plutôt que de le reprocher aux autres, elle se le reproche à elle. Et c'est là que les choses terribles vont commencer. En témoignent les expressions du type « je suis nul »,« je vaux rien », etc., etc. Et à partir de là, patatrac, l'estime de soi s'effondre. Et donc, enfin, dernière étape, qui peut parfois être invisible, tout se passe comme si la personne intériorisait la discrimination. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'elle prend sur elle qu'elle a cette différence, et donc du coup, elle se sent coupable de ce qu'elle est. Pas de ce qu'elle a fait, puisque précisément elle n'a rien fait, mais elle va se sentir coupable de ce qu'elle est. Et donc on a bien là un effondrement de l'estime de soi et un sentiment de culpabilité. Et donc, à ce moment-là, toutes les conditions sont réunies pour ceux qui vont avoir des velléités perverses de faire au bouc émissaire toutes sortes de violences. Et par conséquent, la personne va finir par trouver normal toutes ces violences, toutes ces injustices qu'elle subit, puisque, je le répète encore une fois, elle se sent coupable d'être, c'est-à-dire en fait elle se sent vraiment moins bien que les autres. Et donc à ce moment-là, elle est comme soumise au groupe et paralysée. Donc c'est la peur aussi qui va être de mise dans ce processus-là. Alors on peut quand même noter que le moment d'intériorisation de la discrimination, donc qui est interne à la personne, peut être rendu visible par des changements. Donc c'est là que c'est important qu'il y ait des personnes extérieures qui se rendent compte de ces changements pour pouvoir justement engager des programmes éducatifs, ne serait-ce que de prévention de phénomènes de harcèlement, voire de soins lorsque la personne est justement terriblement en souffrance. Et pour cela, il faut des moyens. Et dans l'éducation nationale, je viens de parler du programme phare, les moyens, il en manque quand même, puisque il faudrait déjà beaucoup plus de jeunes qui puissent encadrer justement nos jeunes. Alors, Daniel, tu voulais compléter ce que disait Marie-Claude en parlant de deux autrices qui ont étudié les comportements de plusieurs animaux à l'adolescence et qui font des comparaisons interespèces. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui. Alors, d'abord, avant de parler des deux autrices, les raisons du harcèlement, en fait, sont multiples. Et les effets sont parfois, bien sûr, dévastateurs. Nous avons tous eu connaissance de suicides d'adolescents ou d'adolescentes suite à un harcèlement scolaire. En fait, tout et n'importe quoi peut devenir un prétexte à harceler. Si on est un peu différent, il y a un risque de se démarquer des autres. Si on est grande gueule, ou gros, ou un télo, ou trop grand, si on a des grands pieds, des petits pieds, enfin bref, tout est... Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver pour harceler quelqu'un. Donc ces deux autrices, qui s'appellent Barbara Natterson-Horowitz, pas facile à retenir, et Catherine Bowers, dans un essai qui s'appelle « L'âge sauvage, l'adolescence chez les humains et les animaux », étudie les comportements de plusieurs animaux à l'adolescence et font des comparaisons interespèces. Donc, elle s'appuie sur des études qui prouvent que certains comportements, notamment à l'adolescence, sont communs aux animaux et aux humains. Nous ne serions donc pas que des êtres de culture, n'en déplaise à certains théoriciens des réseaux sociaux. Certains humains et certains animaux se font remarquer sans le vouloir. C'est ce que les autrices appellent l'effet de bizarrerie. C'est le fait que parfois un animal dans la nature puisse être différent des autres membres de son groupe et en se démarquant peut attirer l'attention d'un prédateur. Elles disent « tout détail ou comportement à part met en danger les animaux, des oiseaux aux poissons, en passant par les mammifères, humains compris bien sûr, et peut déclencher l'exclusion ou le harcèlement du membre différent pour le chasser du groupe ». Et bon, donc ça fait partie de leur démonstration, et elle démontre surtout, dans l'âge sauvage, que la principale chose à retenir du harcèlement chez les animaux, c'est qu'il vise presque toujours l'obtention de la préservation d'un statut. Les animaux de haut rang, soucieux de le rester, intimident les autres pour afficher leur dominance. Donc remplacez animaux par ados, et vous voilà dans la cour du lycée ou du collège, ou entre adultes, dans certains contextes d'ailleurs. Il s'agit donc avant tout de rapports de domination. Elle parle de trois types de harceleurs. Les dominateurs qui cherchent à acquérir et à garder leur statut dans le groupe. Premier type. Deuxième type, les conformistes qui visent à conserver la conformité à la norme sociale dans le groupe. Donc là, ils attaquent leur cible en s'appuyant sur des différences réelles, exagérées ou même inventées, par exemple la diffusion de rumeurs d'ordre sexuel ou d'insultes homophobes, qui est une tactique très courante. Les harceleurs réorienteurs, troisième type, qui sont des jeunes qui ont eux-mêmes été victimes de harcèlement en fin de primaire. Donc contrairement au harcèlement de dominance, qui suppose une certaine confiance en soi, le harcèlement de réorientation naît de l'anxiété, de la peur de revivre des choses. Donc la posture de ce type de harceleur est défensive. Et ce sont des enfants qui, le plus souvent, agissent seuls. Ils sont assez plus faciles à... Il faut comprendre que les comportements des harceleurs adolescents dépendent bien sûr de facteurs multiples, mais les comportements instinctifs que nous manifestons tous sont particulièrement saillants à l'adolescence. Et il faut aussi admettre que les harceleurs ne sont pas forcément de petites frappes mal élevées qui ne reçoivent pas une éducation suffisamment bienveillante ou stricte, ou je ne sais quoi d'autre. Le harceleur du cours d'école peut tout à fait être votre fils, votre fille, votre nièce, la mignonne petite fille de la gardienne ou le grand ado qui fait du babysitting chez les voisins. Parmi eux d'ailleurs, il y en a qui très naïvement ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font, puis que ce qu'ils font puisse être blessant pour l'autre. Alors que faire ? Comment aider à prévenir ces comportements problématiques ? Un des axes de prévention, et c'est un axe extrêmement important, consiste à aider les jeunes à développer leur empathie. Lorsqu'ils peuvent s'imaginer à la souffrance de leur cible, lorsqu'ils peuvent s'imaginer à la place de leur cible, l'empathie peut remplacer l'agressivité. L'éducation nationale a créé un site dédié. Il existe des campagnes de prévention, des numéros de téléphone. On peut se manifester si l'on est harcelé ou témoin de harcèlement. Le programme phare, tu en as parlé, Florence, comprend donc cette fameuse méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode non blâmante, c'est-à-dire qu'on ne blâme personne, hein, qui invite à soutenir et accompagner l'élève cible, qui n'est pas désigné comme victime, mais comme cible, tout en travaillant avec l'intimidateur pour le faire changer de posture, parfois sans qu'il se rende compte lui-même qu'il a été repéré. Il y a également une chose qui existe, qui nécessite une formation, et qui a été intégrée dans les outils utilisables par l'éducation nationale, qui s'appelle le jeu des trois figures, qui a été développé dans plusieurs académies par l'association, et qui consiste à développer l'empathie à travers de ce jeu. Il bénéficie d'un agrément de l'école de l'éducation nationale. Pour les adolescents, il est appelé Atelier Trois Figures.
Bien, merci beaucoup. Alors Vincent, toi, tu voulais mettre l'accent sur le fait qu'on pouvait guérir du harcèlement en nous parlant d'une artiste qui a su surmonter ses blessures grâce à la musique.
Eh oui, tout à fait. La chanteuse marseillaise Tessae, jeune prodige de la scène pop urbaine française, est devenue une voix incontournable pour toute une génération. Mais derrière son succès se cache une histoire bien douloureuse, celle du harcèlement scolaire, la thématique de notre émission. Victime de harcèlement scolaire durant ses années de collège et de lycée, elle a dû faire face à une violence quotidienne, à la fois verbale et psychologique. Son apparence, son style et même sa passion pour la musique ont fait d'elle une cible. Ses attaques répétées ont fini par affecter profondément son moral et son estime de soi, la poussant à s'isoler. Et c'est dans cet isolement que la jeune Tessae trouve refuge dans la musique. Sa force réside dans sa capacité à transformer la souffrance en art. Aujourd'hui, Tessae utilise sa notoriété pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Elle partage son parcours avec ses fans, prouvant que l'on peut se relever, même après avoir touché le fond. Ses prises de parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias sont autant de messages d'espoir pour ceux qui traversent des moments similaires. D'ailleurs, elle témoigne du harcèlement scolaire et de ses souffrances dans son livre « Frôler les murs » qui a été librement adapté dans un téléfilm qui s'intitule « Respire » sorti en 2023. Justement, en parlant de « Frôler les murs », j'ai eu l'occasion de recueillir le témoignage d'une personne qui a subi du harcèlement moral, physique durant ses années collège. Je voulais, avant de vous parler de cette personne, la remercier vivement pour son témoignage qui est très poignant. Son témoignage dont elle m'a fait part. Donc, elle subissait des phrases telles que « Tu ressembles à une prostituée, car elle avait mis du mascara. » Ou encore « Le midi à la cantine, prends un yaourt. Nature, tu es trop grosse. » Tout cela allait jusqu'à des menaces de mort le soir sur son téléphone portable à la maison. La seule solution pour elle était l'isolement. Bien heureusement, ses parents ont réussi à détecter un changement de comportement, ont enfin pu comprendre ce qu'il se passait et mettre un stop à tout cela. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, elle respire, elle a un message pour nos auditeurs. Vous n'êtes pas seul, et n'oubliez pas, il pleut toujours plus fort sur les gens qui méritent le soleil. Maintenant, elle rayonne, elle vit de son activité professionnelle, et elle est complètement épanouie.
L'émission s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole.